L'autre jour, j'ai écouté la radio et j'ai entendu la présentation de ce film Fursi, né libre. Un film qui est sorti en salle il y a quelques jours aussi, d'après une histoire vraie. Et Fursi fut un esclave. Mais malgré les circonstances dramatiques de sa vie, il avait la volonté d'apprendre à lire. Et quand sa maman est morte, en faisant quelque part le tri dans ses affaires, il a découvert une feuille, un document, qui attestait qu'à un moment donné, sa maman avait été affranchie, qu'elle n'était plus esclave, mais qu'elle était libre. Et par conséquence, le fils de cette maman, donc Fursi, le personnage principal du film, était né libre, et non pas comme esclave. Mais pendant de longues, longues années, son propriétaire et la culture, la société à l'époque l'ont gardé dans un esclavage dramatique, inhumain. Et quand Fursi découvre donc qu'il est libre, qu'il est né libre, il va tout faire pour faire reconnaître cette liberté par la justice, par l'État, et par son propriétaire. Et dans le film, à un moment donné, il y a une séance devant le tribunal, devant les juges, et son avocat se lève et pour la défense va dire « Peut-on renoncer à sa liberté ?» À aucun moment, cet homme n'a douté de sa liberté, de son affranchissement, quoi que disaient les gens. Quoi qu'il pensait, il se savait affranchi, quoique encore mis dans les chaînes, par celui qui prétendait être son propriétaire. Et cet homme, Fursi, a dû lutter pendant de longues et de longues et de longues années, jusqu'à ce qu'un juge déclare, c'est vrai, cet homme n'est pas un esclave, mais un homme libre. Les paroles sont fortes dans ce film. Et ils initient une réflexion aussi sur un thème biblique de première importance, la liberté. Pas n'importe quelle liberté, mais la liberté en Christ. Et si Christ vous a affranchi, ne laissez dire à personne que vous êtes esclave. Ne vous laissez plus remettre sous quelconque esclavage. Nous avions choisi pour cette année le thème de Jésus, demeurer en Jésus et porter du fruit. Et nous avons regardé de plus près avec quelle parole, avec quelle autorité, avec quelle puissance Jésus affirmait qui il était. La vérité, la porte, la vie, le pain. Il affirme son identité, son ministère, sa mission, mais non seulement cela, parce qu'en affirmant qui il est, il affirme en même temps aussi ce qu'il donne à celle et à celui qui se confie en lui. Si quelqu'un entre par moi, si quelqu'un me suit, il est libre pour la vie. Il nous dit ce qu'il donne à celui qui se confie en lui, qui renonce à une vie égoïste, où l'homme veut être son propre Dieu pour croire. Et il dira dans l'évangile de Jean, « La vérité vous rendra libre, vous affranchira. » Et dans l'épître aux Galates, « La liberté que nous avons en Jésus-Christ, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » Et justement, l'épître aux Galates, nous avons commencé dans notre groupe de maison avec son étude. Et nous avons découvert dans le premier chapitre le cœur de l'évangile, où l'apôtre Paul écrit « Jésus s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, pour nous arracher, pour nous délivrer du monde mauvais. » Et ces Galates qui entendaient ce message de la liberté en Christ, c'était des personnes qui avaient baigné dans l'idolâtrie, dans le paganisme, qui adoraient des dieux, des divinités, et qui ont découvert en Jésus-Christ le Sauveur, la liberté, le salut. Mais ils étaient exposés à la pression des personnes qui disaient pour être un bon chrétien, il faut Jésus, bien entendu, et il faut observer la loi et les traditions, et notamment la circoncision. Et ils étaient exposés à cette pression-là, et l'apôtre Paul dit que ce sont des personnes qui imposent un enseignement qui déforme, qui renverse l'évangile et qui conduit à se détourner de Dieu. Galates 5, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. Et là, il n'est pas question de l'esclavage comme Fursi qui a été fouetté pour travailler dans des champs de sucre à canne. Mais là, nous sommes dans cet esclavage que connaît l'homme. L'esclavage de sa culpabilité, l'esclavage de son péché, de ses addictions, de son égoïsme, et ainsi de suite. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage, car en Christ vous êtes libre. Et dans les prédications, nous avons commencé une série avec l'épître aux Hébreux. Et là, nous avons également découvert dans le chapitre 1er le cœur de l'Évangile. Jésus a accompli la purification de nos péchés pour nous libérer, pour nous affranchir. Et dans le chapitre 3, il nous dit « Frères et sœurs saints, vous avez part à l'appel céleste. » Et dans le chapitre 10, « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus » l'assurance d'un libre accès au sanctuaire, car Christ nous a affranchis. Pour les Hébreux, c'était des chrétiens d'origine juive, exposés à la pression de la tradition, de la religion, de la famille, de leur entourage, exposés à la tentation d'un retour en arrière. Et là, l'épître aux Hébreux les met en garde. En se remettant sous le joug de l'esclavage, ils vont être entraînés à leur perte et ils risquent de négliger un si grand salut. Le remède qui nous est présenté dans l'Épître aux Hébreux contre ces menaces sur notre liberté, c'est regarder à Jésus. Ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus-Christ. D'autres traductions, c'est « fixez vos pensées » ou ce mot, ce verbe « considérer ». Et justement, ce mot « considérer » m'a interpellé dans les traductions, parce que là, il est question de regarder quelque chose très attentivement. Fixer les yeux ou l'esprit sur quelque chose, constamment. C'est comme si l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous disait « Soyez en train de regarder, de considérer Jésus-Christ. » Et ce mot « considérer » étymologiquement signifie « contempler les étoiles ». Et si dans les jours à venir, un soir, le ciel est dégagé, je vous invite à sortir et à faire, je pense, la même constatation que moi, c'est que vous regardez le ciel étoilé et dans un premier temps, vous voyez juste les étoiles les plus brillantes. Et quand vous gardez votre regard fixé sur le ciel, vous voyez tout à coup une autre profondeur, d'autres étoiles qui se révèlent à vous. Peut-être aussi que ce passage de Hébreux nous invite à scruter, à regarder de plus près, à persévérer pour découvrir qui est Jésus. Ne restons pas un regard superficiel sur Jésus, en nous intéressant aux étoiles les plus lumineuses, peut-être les miracles. Waouh, Jésus, c'est celui qui accomplit des miracles. Ne restons pas à ça. Prenons le temps pour regarder de plus près. Alors cela ne signifie pas forcément que ce que je crois, ce que je sais de Jésus, que ce soit faux, mais c'est peut-être tout simplement superficiel et incomplet. Dans notre foi, en celui dont nous disons qu'il est notre Sauveur et Seigneur, il y a une profondeur à découvrir, à explorer. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux est convaincu qu'on ne s'en lassera jamais. On ne pourra jamais dire « Ah, maintenant je sais tout de qui est Jésus, j'ai tout compris ». Et que ce regard attentif, persévérant, nourrit notre foi et notre espérance, mais nous protège également et nous garde contre les déviations. Un auteur écrit et nous met justement aussi en garde, « Ne pensez pas tout savoir au sujet de Jésus. Croyez qu'il y a encore de merveilleux trésors de joie céleste qui se dévoileront pour vous à mesure que vous le connaîtrez mieux. » Pour ce matin, c'est le début du chapitre 3 de l'Épître aux Hébreux qui nous est proposé pour la prédication. Et j'aimerais demander, solliciter quelques personnes pour la lecture. À chaque fois qu'un texte biblique s'affiche, si quelqu'un peut élever sa voix et lire cette parole de Dieu pour nous. Mettons-nous quelques instants à la place des premiers lecteurs de cet Épître aux Hébreux. C'était des personnes qui avaient grandi, qui avaient baigné dans la culture, dans la foi, dans les traditions de leur famille, de leur peuple, fiers de confesser cette appartenance au peuple juif. Fiers de pouvoir dire que nous sommes le peuple de Dieu. C'est Moïse qui nous a délivrés du pays d'Égypte. C'est Moïse qui nous a conduits. C'est Moïse qui nous a donné les 10 commandements. C'est Moïse qui a accompli des miracles. C'est Moïse qui nous a conduits durant 40 ans dans le désert. Puis, ces personnes qui avaient grandi dans cette culture familiale et dans cette culture religieuse entendent à un moment donné la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Messie tant attendu. Et la réponse qu'il donne à cette annonce, « Frère, que ferons-nous pour être sauvés ?»« Crois au Seigneur Jésus. Crois et tu seras sauvé. » Et ces jeunes chrétiens qui se retrouvent pour célébrer ensemble un culte subissent des moments de remise en question, de doute. Ne plus aller à la synagogue, plus besoin d'aller à Jérusalem pour offrir des sacrifices pour le pardon des péchés. Au lieu de se retrouver à la synagogue et dans ce temple majestueux, on peut juste se retrouver chez un tel, dans son salon, pour vivre un culte et croire que Dieu est présent, que nous sommes son peuple. Et puis, ne plus prendre l'argent gagné durement pour acheter des sacrifices, pour être pardonné, tout ça, il ne faut plus le faire. Et puis, on peut imaginer aussi que ces jeunes chrétiens subissent la pression, peut-être même l'oppression, les menaces, la persécution. Toi, avec Jésus, très bien, mais tu sais, Moïse, n'oublie pas ce que tu as entendu de cet homme. Pense à la loi, pense au temple, pense aux sacrifices, aux prières, aux fêtes religieuses, toutes ces traditions que Dieu a voulu. Et pense à tout cela, car les siècles n'ont pas réussi à faire taire cette parole. Imagine-toi, toi qui dis maintenant qu'en Jésus tu es pardonné, imagine que pendant 1400 ans, notre peuple a célébré Dieu. Les sacrifices, la loi, notre tradition qui a uni nos familles, qui a uni toute une nation, qui nous a même permis à survivre à l'exil, à la persécution. Et malgré la diaspora, nous sommes restés le peuple de Dieu uni. Et maintenant, toi, tu viens et tu dis, tu crois en Jésus. Il est invisible. Crois, si tu veux, en Jésus, mais pour être un vrai croyant, n'oublie surtout pas la loi. Et Moïse, avec qui Dieu parlait face à face. Moïse qui a reçu la loi de Dieu au point qu'on dit qu'elle est la loi de Moïse. Et toi, tu viens maintenant, tu dis que tu es chrétien, que tu suis Jésus, qu'on ne voit pas, un charpentier, 3 ans de ministère, souvent incompris, et surtout, aucun de nos chefs ne l'a reconnu comme Messie. Tandis que tout le monde cite Moïse. Qui est Jésus? Qui est Moïse? Éric nous rappelait dimanche dernier, avec le texte d'Hébreux 2, il disait une présentation majestueuse de Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur. Il a été envoyé pour nous délivrer de l'Égypte spirituelle, de l'esclavage spirituel et de l'oppression du péché et de la mort. Et l'Épître aux Hébreux nous dit « Regardez, considérez Jésus dans sa grandeur, dans sa puissance, dans sa majesté et dans sa sainteté. » Et pour montrer cette majesté éclatante de Jésus, l'auteur de l'Épître aux Hébreux n'a pas besoin de rabaisser Moïse, de le dénigrer en disant « Moïse, ça c'est nul, c'est passé, c'est du... » Non, non, non. Il n'a pas besoin de dénigrer Jésus. Ça, c'est un peu à la manière... aujourd'hui, vous savez qu'on prépare des élections, les élections municipales. Et là, très souvent, dans les discours, qu'est-ce qu'on fait pour être bien vu? Ben, on abaisse l'autre, on rabaisse l'autre, on le dénigre pour gagner quelques voix. Pas besoin de sortir ce petit jeu pour montrer la splendeur, la majesté, la sainteté, la supériorité de Jésus. Il n'y a pas de comparaison possible. Et il ne faut pas dénigrer Moïse pour élever Jésus. D'ailleurs, ce texte nous rappelle justement Moïse dans sa fidélité, comme aucun autre. La parole de Dieu lui rend ce témoignage, l'Épître aux Hébreux lui rend ce témoignage. Mais pour revenir à notre texte de Hébreux 3, là où Moïse est un serviteur dans la maison de l'Éternel, il nous est dit que Jésus est le Fils. Là où Moïse sert dans la maison de Dieu, c'est-à-dire dans le peuple de Dieu comme intendant sous l'autorité de Dieu, le texte nous dit que Jésus est placé sur la maison de Dieu, en position d'autorité et de propriétaire. Il est le constructeur de cette maison. Il est la pierre angulaire. Il est le propriétaire. C'est Jésus qui est le salut. Il apporte le salut et il fait de nous ce peuple, cette famille de Dieu, son Église, ses enfants. Nous entrons dans son royaume. Il est notre rocher, il est l'eau vive, il est le pain de vie, il est la vie éternelle. Et le texte nous dit que Jésus est l'apôtre. Et un commentateur écrit qu'ainsi, il représente Dieu auprès des hommes. Et il nous est présenté aussi comme grand prêtre, c'est celui qui représente les hommes auprès de Dieu. Et Jésus a cette double fonction. Et en Jésus-Christ, nous devenons des frères et sœurs saints et nous avons part à l'appel céleste. Nous sommes mis à part pour Dieu, purifiés, consacrés grâce à Jésus qui nous rend libres. Et cet appel céleste, cet appel vient du ciel, vient de Dieu, mais c'est aussi cet appel à vivre ce royaume de Dieu avec ses valeurs déjà aujourd'hui. Nous avons été créés par Dieu, pour le ciel, et le péché nous a fait perdre cela. Mais en Jésus, nous retrouvons cette identité, il fait de nous des frères et sœurs saints ayant un appel céleste. Et cette vérité, elle est tellement précieuse que le verset 10 de Hébreux 3 nous dit que nous devons le retenir fermement jusqu'à la fin, car c'est là que trouve pour nous la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. Considérons Jésus et non pas notre misère spirituelle, car le cœur humain est tordu au point que même notre misère spirituelle peut devenir l'expression de notre orgueil. Et je dis devant tout le monde, « Seigneur, je suis un grand pécheur, pardonne-moi. » Mais en fait, mon cœur n'est pas porté vers Dieu, mais plus pour que vous remarquiez à quel point je suis un chrétien engagé et consacré. Ne regardons pas notre misère spirituelle, regardons à Jésus. Mais ce texte de Hébreux 3 nous met en garde en citant le psaume 95. C'est un psaume qui appelle les croyants à l'adoration. Mais ce psaume invoque également un peuple qui vivait dans la désobéissance. Pourtant, c'était le peuple de Dieu qui avait reçu de Dieu la délivrance de l'esclavage, qui avait reçu la loi, qui avait vu la providence de Dieu dans son quotidien, mais qui a désobéi, qui se rebellait, qui était incrédule et qui, à un moment donné, défie Dieu et essaye de faire dire à Dieu ou de faire faire à Dieu ce que eux ils veulent. Ils avaient Moïse et il y avait la terre promise devant leurs yeux, mais dans leur cœur, il y a une évolution constante, lente, progressive, qui conduit finalement au refus de suivre l'ordre de Dieu d'entrer dans la terre promise. Et là, le texte biblique nous met en garde contre l'endurcissement de notre cœur qui conduit à un éloignement. La racine même du mal se situe dans le domaine de ma relation personnelle avec Dieu. Et l'incrédulité est alors une relation faussée que Dieu initie malgré toutes les preuves de la providence de Dieu. Et là, face à ce peuple rebelle, s'exprime la sainteté de Dieu, aussi la colère de Dieu, en disant « Ils ne rentreront pas dans mon repos. » Ces textes nous sont donnés pour nous mettre en garde aussi et pour nous interpeller. Regardez, considérez cet exemple montrant l'attitude du peuple de Dieu dans le désert et les conséquences qu'il emportait. Et si cet exemple nous est relevé, c'est pour nous dire « Et vous, n'agissez pas ainsi. » N'agissez pas ainsi. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, si vous entendez son enseignement, il y a dans cet appel une urgence, une insistance, mais en même temps une offre invitant le peuple de Dieu à s'emparer des promesses de l'Éternel et de la terre promise. Les premiers lecteurs de l'Épître aux Hébreux couraient le risque de l'endurcissement de leur cœur. Et nous, nous ne sommes pas non plus à l'abri d'une telle attitude. Dieu, qui a remplacé notre cœur de pierre par un cœur de chair, par Jésus-Christ, et apparemment, dans la vie spirituelle, il peut de nouveau y avoir des éléments qui risquent d'endurcir ce nouveau cœur que Dieu nous a donné pour le rendre insensible, inaccessible à l'action de Dieu, à la parole de Dieu, et à son esprit. Qu'est-ce qui peut endurcir notre cœur? Pour l'un ou par moment, la fierté, l'orgueil, même l'orgueil religieux, la peur d'être jugé, vouloir plaire aux hommes, la liberté personnelle exigée, où j'affirme que personne ne peut me dire ce que j'aurai à faire, même pas Dieu. Par moments, c'est la tentation, puis le péché qui rentre dans mon cœur et qui peut l'endurcir. Dieu nous parle, c'est ce que nous avons vu dans Hébreux chapitre 1er. Et quand Dieu parle dans notre vie, quelle est notre attitude? Quelle est notre réaction? Quand Dieu met le doigt là où ça nous fait mal, parce qu'il donne sa lumière dans ce que j'essaye de cacher jalousement. Comment est-ce que je réagis quand Dieu me parle et me dérange dans mes opinions, dans mes certitudes? Quand il me montre que je me suis égaré, que je me suis trompé, quand il me montre des compromis dangereux, ma tiédeur, un éloignement progressif, certes lente, mais un éloignement quand même. Comment je réagis quand Dieu me parle, dans sa parole, par son esprit, parfois aussi dans les circonstances de notre vie? Est-ce que j'endurcis mon cœur, je m'éloigne du Seigneur, ou est-ce que j'accepte cette parole de Dieu comme une parole de vérité, comme une parole de vie? Alors la responsabilité personnelle est évidente. Quelle attitude vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de Jésus? Nous élever obstinément contre Dieu comme le peuple dans le désert, pour nous laisser modeler par Dieu, pour ressembler de plus en plus à son Fils Jésus. Que la foi soit notre réponse. Aujourd'hui, c'est le jour du choix, le jour du salut. Mais le texte nous dit aussi que ça peut être le jour de la perdition quand je rejette l'offre du salut en Christ. Le cœur endurci, ou un cœur qui se laisse modeler par le Seigneur, un cœur qui s'égare, ou un cœur qui reste sur le droit chemin, ou qui y revient, un cœur qui se détourne, se détache du Dieu vivant, ou un cœur qui s'accroche à Jésus. Jésus est tout pour moi. Je suis libre. Que rien ni personne ne fasse de l'ombre à Jésus-Christ. Il est l'apôtre que nous devons écouter. Il est le grand prêtre qui nous offre l'accès à Dieu. Il est le chef de la maison qui nous appelle à le servir. C'est Jésus, et Jésus seul qui peut nous donner le salut et la vocation céleste. Que notre foi soit notre réponse aujourd'hui et maintenant. Et simplement une prière pour terminer ce temps d'étude de la parole de Dieu. Viens, viens adorer, peuple racheté, toutes les nations, venez le louer. Adorez Jésus, votre Rédempteur, il est précieux, roi de gloire. Amen.